Frères et sœurs bien-aimés, l'apôtre saint Paul n'a pas mâché ses mots. Je dois vous le dire, le temps est limité. Cette limite du mystère du temps, ce temps qui passe, ce temps qui dure, ce temps qui paraît plus bref, est une création de Dieu et comme l'image même de sa miséricorde. Si Dieu nous a placés dans le temps, c'est pour nous laisser le temps de nous convertir. Il n'en fut pas de même lors de la création des anges. Ils ont dû choisir immédiatement, dans une forme d'instantanéité, s'ils étaient avec Dieu ou contre Dieu, ne pouvant plus alors changer d'avis. Si nous sommes placés dans le temps et si le temps est limité, c'est parce que nous venons de Dieu, nous retournons à Dieu, mais que le bon Dieu nous donne le temps de nous tourner vers lui, de revenir vers lui parfois de tout notre cœur, ce qu'à la suite de saint Jean le Baptiste nous appelons la conversion. Notre Seigneur Jésus le Christ, ayant appris l'arrestation de son parent Jean le Baptiste, reprend alors la prédication du précurseur. Qu'annonce-t-il ? Les temps sont accomplis. Depuis le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, nous attendions, ou plutôt le peuple d'Israël attendait dans sa foi, que Dieu envoie enfin le Sauveur, que l'on appelle en hébreu le Messie, en grec le Christ. Les temps sont à présent accomplis. Non seulement parce que Jean le Baptiste, sur les bords du Jourdain, a reconnu en Jésus l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, mais Jean-Baptiste étant à prison, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est alors parmi nous. Le Seigneur Jésus est le règne de Dieu. Il est également l'évangile, c'est-à-dire cette bonne nouvelle de ce Dieu qui a quitté la hauteur du ciel pour venir à notre secours. Il a pris chair de la bienheureuse Vierge Marie, s'est fait homme pour nous et pour notre salut. Le temps est limité, nous dit saint Paul, il faut donc nous convertir, mais la présence du Seigneur parmi nous fait que ces temps sont accomplis. Nous sommes en ces temps qui sont les derniers. Car la seule nouveauté qui doit advenir en ce monde et dans notre foi, celle qui a été l'objet de tout le temps de l'Avent, c'est le retour du Christ dans la gloire. La vie chrétienne, dans sa liturgie, médite à l'école de la Vierge Marie chacun des événements de la vie du Seigneur, mais ce faisant, méditation après méditation, dimanche après dimanche, année après année, nous avançons à la rencontre du Seigneur. Mais le Seigneur doit également revenir parmi nous pour que les temps accomplis soient alors définitivement clos, nous faisant entrer chacun dans la vie éternelle. L'heure est donc venue au Seigneur Jésus, reprenant la prédication du Baptiste, de s'entourer de compagnons. Et nous venons d'entendre l'empressement avec lequel saint Marc nous a rapporté cet appel, le regard du Seigneur. Le regard du Seigneur se pose sur Simon, sur André, sur Jacques et sur Jean. Et l'un des mots préférés sous le stylet de saint Marc est le « aussitôt ». Le regard de Jésus est posé sur eux, il les appelle « aussitôt ». Aussitôt, ils quittent tout et le suivent. C'est dire si le regard du Seigneur posé sur eux, si le regard du Seigneur posé sur chacun de nous appelle l'empressement, l'adhésion amoureuse de la foi, de l'espérance pour se mettre à la suite du Seigneur. Nous sommes édifiés devant un tel appel, une telle réponse. Mais il n'est pas toujours aussi facile de répondre avec empressement au Seigneur qui nous appelle. Dimanche dernier, nous avons entendu le jeune Samuel. Samuel être appelé par Dieu. Samuel, Samuel. Et celui-ci de revenir par trois fois jusqu'à se présenter au Seigneur. Me voici, Seigneur. Et Saint-Michel Garicoïde, dans son sanctuaire de Bétharam, voisin de notre Bigorre, de dire « Me voici, Seigneur, sans retard, sans retour. » par amour. Si Samuel a mis un peu de temps à répondre, Jonas, dont nous venons d'entendre le récit dans la première épître, en a mis beaucoup trop. Jonas est appelé par le Seigneur à aller convertir une ville immensément grande. Il fallait 3 jours à pied pour la traverser. Jonas doit donc aller à Ninive pour accomplir la volonté de Dieu. Mais Jonas ne veut pas y aller. Peut-être, pensons-nous en ouvrant le livre de Jonas, que s'il se dérobe à sa mission, c'est qu'il est trop jeune, c'est qu'il n'est pas préparé. Que va-t-il faire pour pouvoir convertir une ville si grande, lui, sur qui le Seigneur semble faire peser tout le poids du salut ? Au lieu d'aller à Ninive, il prend le premier bateau pour Tarsis. Et lorsqu'il prend ce bateau, écoutez bien l'histoire, chers enfants, lorsqu'il prend ce bateau, accompagné de marins expérimentés, la fureur de la tempête est telle que les marins affirment et s'interrogent. L'un d'entre nous en ce bateau a fait quelque chose contre la volonté de Dieu, ou du moins d'un Dieu. Et au fond du bateau, la petite voix de Jonas se fait entendre. Jonas est alors jeté dans les flots en furie qui aussitôt s'apaisent. L'histoire du livre de Jonas ne s'arrête pas là. Il est avalé par le monstre marin. Le Seigneur Jésus, dans sa prédication, dira à cette génération incrédule de ses contemporains, « Il ne vous sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. » Jonas a donc passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du monstre. Et voilà qu'il a eu le temps nécessaire de réfléchir. Finalement, n'aurait-il pas mieux valu accomplir la volonté de Dieu ? Le voilà expulsé du monstre marin. Après 3 jours, le Seigneur sera enfermé, non pas dans le monstre marin, mais dans l'obscurité du tombeau et se relèvera le 3e jour. Voilà le signe de Jonas. Pour toutes les fois où nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu, Dieu est venu offrir le sacrifice de sa vie pour que nous ayons la vie, mais, précise-t-il, la vie en abondance. Jonas se décide donc, car la première épître d'aujourd'hui a pris quelques grands raccourcis, à aller annoncer la bonne nouvelle, à aller annoncer que Dieu fait miséricorde, mais qu'il faut pour cela se convertir. La première journée n'est pas encore passée, que même le roi de Ninive a entendu cet appel à la conversion et alors a décrété un jeûne général pour revenir vers le Seigneur de tout son cœur. Jonas, comme nous parfois, pensons que nous sommes appelés mais pas taillés pour accomplir la volonté de Dieu. Dieu n'attend pas que nous réfléchissions avec nos manières. Dieu attend, comme les apôtres, que nous nous laissions chacun regarder par le Christ, que nous nous laissions appeler pour nous mettre alors à sa suite. Je vous redis la belle phrase de saint Michel Garikoïtz, « Me voici, Seigneur, sans retard, sans retour, par amour. » Pourtant, devant la conversion si rapide manifestant la puissance de Dieu, Jonas n'est pas satisfait. Comment ? Le bon Dieu n'a pas écrasé la ville de Ninive ? C'était un peuple de pécheurs, ils ne connaissaient pas la vérité du Dieu révélé, ils vivaient bien mal, avaient des mœurs et des coutumes, peut-être qu'ils ressemblent à celles d'aujourd'hui. Et finalement, on apprend à la fin du livre de Jonas que s'il n'a pas voulu aller convertir Ninive, c'est pas tant qu'il pensait qu'il n'en était pas taillé, c'est surtout qu'il n'aimait pas ce bon Dieu qui révélait sa clémence et sa miséricorde. Il aurait finalement préféré que la fureur de Dieu s'abatte sur cette ville, mais le bon Dieu révèle alors tout son cœur. Et dans l'Ancien Testament, il nous dit qu'il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur aussi se présentera à nous dans l'Évangile en disant « Venez à moi, car je suis doux et humble de cœur ». Cette douceur, cette humilité de Dieu qui se donne a été manifestée dans l'enfant emmailloté que sont venus adorer et les bergers dans leur pauvreté et les mages dans leur science. Nous aussi, nous sommes faits, façonnés de toute éternité pour adorer le Seigneur et le contempler. C'est pourquoi le temps est limité ici-bas. C'est pourquoi le temps est accompli et cet accomplissement sera parfait lorsque, après le mystère de notre mort ou lorsque le Christ reviendra, nous le verrons face à face. C'est le grand désir qui habite les Saintes Écritures. Quand est-ce, Seigneur, que je vous verrai face à face ? Patriarche Jacob, celui qui a fini par se battre avec Dieu, dira « J'ai vu le Seigneur et je ne suis pas mort ». Le Seigneur n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants, il est la résurrection et la vie du monde à venir. Alors nous nous laissons regarder par le Christ, nous nous laissons appeler et modestement, là où nous en sommes, nous nous mettons à sa suite. Nous entendons à travers lui la prédication de Jean le Baptiste, cet appel à la conversion, il faut changer, il faut que notre cœur finisse par être à l'image de celui du Seigneur. Avec ce mois de janvier, nous allons finir par arriver aux fêtes du 11 février de Notre-Dame de Lourdes, et pour nous en Bigorre, il s'agit d'un mémorial, car la dame est apparue chez nous, en la grotte bénie de Massabielle. Elle n'est peut-être pas apparue, la Sainte Vierge, sur les bords du Jourdain, comme le Baptiste. Elle n'était pas vêtue d'une tunique en poil de chameau, non, plus féminine, plus raffinée, de sa robe blanche et de sa ceinture bleue. Mais elle est venue, sur les bords du Gave, reprendre le ministère de Jean-Baptiste, nous appeler à travers les extases qu'elle accorda à Bernadette en ses 18 apparitions, à la prière. Il faut prier Dieu, nous dit-elle, pour la conversion des pécheurs et des pécheurs que nous sommes. C'est ce que nous lui disons dans la prière de l'Ave Maria qui nous est bien familière. Priez pour nous. Mais en France, nous rajoutons pauvres pécheurs. Partout dans la chrétienté, on dit priez pour nous, pécheurs. Mais nous, en France, nous disons priez pour nous, pauvres pécheurs. Pourquoi ? Parce que la Vierge, dans le Magnificat, reconnaît que le Seigneur a posé les yeux sur la pauvreté de sa servante et que se mettre à contempler le Christ, à ne pas fuir son regard qui nous appelle, eh bien, c'est reconnaître tout d'abord sa pauvreté, ce désir de conversion qui passe par la prière qui unit notre âme à Dieu. « Priez Dieu pour la conversion des pécheurs, faites pénitence, nous dit la dame. » Faire pénitence, manifester, disait Jean-Baptiste, votre retour à Dieu par des fruits dignes de pénitence. Et cela se fait, comme nous l'entendons parfois, dans les larmes. Il n'est jamais facile de se dépouiller du vieil homme et de revêtir l'homme nouveau. Raison pour laquelle la belle dame se présente le 25 mars comme l'Immaculée Conception. Que la Vierge soit immaculée, c'est-à-dire qu'elle soit sans la tache du péché, nous le tenions de la foi des apôtres qui venait d'être proclamée par la voix du bienheureux pape Pie IX 3 ans et 3 mois avant la première apparition de Lourdes. La Vierge dit qu'elle est immaculée, mais surtout qu'elle est la conception. Cette conception qui, dans les pleurs et dans les larmes, nous permet eh bien, de nous saisir, de nous ressaisir dans le Seigneur qui nous appelle à cette vie bonne, à cette vie eh bien, de charité. Eh bien, nous rendons grâce déjà pour cette apparition de Notre-Dame, pour sa tendresse maternelle. Elle nous dit qu'il nous faut aller à la source. La source, c'est son Fils. Il faut aller à la source, mes enfants, nous dit-elle, pour boire et vous laver. Seul le Christ désaltère nos âmes. Et c'est seulement dans le Christ que nous pouvons laver nos péchés. C'est ce qu'a contemplé saint Jean dans l'Apocalypse. Quand il voit les élus autour de la gloire de Dieu, ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Alors que nous nous laissons regarder par le Christ qui nous appelle comme les apôtres, alors que nous nous réjouissons de sa miséricorde, non pas comme Jonas qui en appelait à la fureur de Dieu, nous supplions Notre-Dame eh bien, d'opérer en nous cette conversion qui nous rapprochera toujours davantage de son Fils. Me voici, Seigneur, sans retard, sans retour, par amour, ainsi soit-il.